Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, bienvenue Place du Marché en ce beau dimanche. Alors notre marché ce matin est un marché lointain, un marché d'un autre pays. C'est un peu le marché de Toyozu, comme on dit, qui a remplacé le mythique Tsukiji, le marché aux poissons de Tokyo. Alors... vous l'avez compris, on se déplace au pays du soleil levant ce matin, ou plutôt, c'est le Japon qui vient à nous, tant il est vrai que la cuisine et la gastronomie japonaise sont aujourd'hui une partie de nos vies de citadins gourmands. Alors, moins à la campagne, c'est vrai. Moins à la campagne, plus en ville, c'est certain, mais au moins, le sushi et le sashimi ont pénétré les territoires en France. En France, mais aussi en Europe et dans tout l'Occident. D'ailleurs, ça a commencé par les USA, hein, du côté de la Californie, avec une grosse diaspora japonaise installée le long des côtes du Pacifique. Aujourd'hui, place du marché, on jette un regard gourmand sur la vraie cuisine japonaise, hein, parce que c'est résumer la cuisine japonaise au sushi, c'est comme résumer la cuisine italienne aux pizzas, et ce qu'elle a de meilleur, car nous avons beaucoup à apprendre des Japonais, comme ils apprennent de nous d'ailleurs. Oui, c'est un bel échange de techniques et d'amour de la gastronomie. Pour en parler, ce matin, je reçois une spécialiste de la cuisine japonaise, c'est Yumiko Ayara. Bonjour Yumiko.
Bonjour.
Je peux vous appeler par votre prénom, je peux dire
ah,
Yumiko.
Oui, bien sûr.
Je ne veux pas dire Madame Ayara.
Non, non.
Ah non, bah non, non, on est un peu familier, mais bon, on est bien ensemble. Alors, vous êtes à la fois journaliste, vous travaillez pour le commerce extérieur japonais, et ici en France, et puis vous vous occupez d'un beau restaurant pour qui... vous avez travaillé d'ailleurs combien de temps pour...
Depuis l'ouverture, donc depuis 6 ans, je travaille.
On n'a pas donné le nom du restaurant, c'est à Paris, comment ça s'appelle?
Oui, c'est Okuda.
Okuda, du nom d'un chef, hein, Toru Okuda.
Oui, c'est ça.
Hein, qui est en fait qui a plusieurs restaurants dans le monde.
Oui.
Ouais, d'accord. Oui. Donc c'est une technique, c'est une façon de cuisiner. Et je vous ai fait venir ce matin pour parler un tout petit peu plus tard. On va y venir dans une deuxième partie de la cuisine kaiseki.
Oui.
Hein, parce que c'est quoi la cuisine kaiseki en un mot?
Oui, cuisine kaiseki, c'est je crois que développé par à partir du repas légère précédé de la cérémonie de thé. Ah, qui a été fondée dans le 16e siècle.
Donc on peut dire quelque part, c'est ce qui subsiste aujourd'hui d'une cuisine impériale, d'une cuisine de cour, peut-être, de tradition.
Non, pas tellement ça. C'est vraiment lié avec la
cérémonie du thé.
Oui.
Donc c'est très traditionnel, la cuisine kaiseki.
Oui.
Hein,
oui.
Et c'est très japonais, du coup. Hein.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est pas tellement interpénétré avec la cuisine française. En face de vous, alors lui, il n'est pas japonais du tout, il est bien de chez nous, j'ai envie de dire, c'est Patrick Fernandez. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick Fernandez, vous êtes poissonnier à Paris, vous tenez une maison qui s'appelle Ebisu. Qu'est-ce que ça veut dire, Ebisu?
Alors, Ebisu, c'est le dieu de la pêche et de la prospérité au Japon. Et
voilà.
C'est aussi le gardien des jeunes enfants.
C'est un peu le Poséidon japonais, quoi. Hein,
c'est un petit peu ça.
Le Neptune japonais.
C'est l'idée d'un peu du travail au Japon. C'est un peu l'image du travail.
Super. Alors, pourquoi vous demandez-vous, pourquoi je fais venir un poissonnier? Alors, ça, vous doutez bien. On a parlé des mythiques marchés aux poissons japonais, Tokyoït. Alors, évidemment, le poisson, c'est très important parce que les Japonais mangent la mer. Toute la mer, tout ce qu'on trouve dans la mer. Hein, on peut dire ça, Yumiko.
Tout
hein,
à fait. Ouais.
Vraiment, avec une diversité de préparations, mais aussi de produits. Mais surtout, Patrick Fernandez, c'est un tenant ici en France d'une méthode qui s'appelle Ikejime. En un mot, Ikejime, c'est quoi?
C'est
pas d'abattage, mais en tout cas
C'est une technique pour bonifier le poisson.
Ouais.
Et ça s'appelle la mort-vive en japonais. Donc c'est
la mort-vive. Vous savez que je fais une petite parenthèse, les Japonais sont obsédés du vivant dans l'assiette. Hein.
Oui.
On essaie toujours d'être plus proche des produits vivants. Et là, c'est une façon dont on va en quelque sorte terminer la vie du poisson de façon douce pour lui conserver peut-être l'arôme, en tout cas les caractères du vivant le plus longtemps possible.
En fait, c'est exactement ça. Et c'est surtout aussi enlever des parties qui ne sont pas très gustativement intéressantes.
Ouais.
Et ça permet aussi de le conserver principalement assez longtemps.
Alors, on en parlera tout à l'heure, parce que ceux qui ont goûté des poissons ikejime à côté des poissons qui meurent dans les filets, ou même des poissons pris à la ligne, mais que l'on laisse sur le pont des navires ou dans la glace immédiatement, ça n'a rien à voir. Et les Japonais à Paris, les grands restaurateurs japonais, ne jurent que par l'ikejime. On va y venir tout de suite. Mais pour l'instant, j'ai passé un petit coup de fil à la DIRCOM, comment dire, directrice de la communication de ANA. Vous connaissez forcément ANA, c'est All Nippon Airways, grande compagnie aérienne. Bonjour Pascal Lemaillot.
Bonjour Vincent Fernio.
Merci d'être avec nous ce matin, Place du Marché. Pascal, alors, vous dites pourquoi est-ce qu'il parle d'une compagnie aérienne ? Parce que ANA, c'est le partenaire privilégié d'un grand événement qui se prépare là pour le 7, 8 et 9 février à Paris. Vous pouvez nous en dire plus, Pascal ?
Oui, exactement. Nous allons offrir un voyage culinaire.
Ah, donc, sans bouger de Paris, on est d'accord.
Voilà.
Le voyage, c'est pour les chefs qui viennent.
Voilà, le voyage, c'est pour les papilles.
Oui.
Donc, c'est 3 jours, donc le midi et le soir,
ouais.
d'une rencontre exceptionnelle, puisque ce sont des chefs japonais qui ne sont jamais venus à Paris. Mm-hmm. Nous avons 3 chefs d'exception. Tomokazu Maehira, qui est un maître du tempura.
Le tempura, c'est le beignet japonais.
Ce sont les beignets japonais,
d'accord,
exactement.
D'accord.
Donc, qui est étoilé Michelin, qui a travaillé pendant 30 ans, donc une expérience très longue pour sublimer
les
que
produits,
vous appeliez les produits, voilà.
Mmh.
Et ensuite, nous avons Kentaro Nakahara, qui lui est un spécialiste du bœuf japonais, donc Wagyu. Voilà,
ah,
le fameux Wagyu très tendre. Il a inventé un sandwich qui s'appelle le Katsu Sando, donc c'est un sandwich au bœuf qui fond dans la bouche.
Ouais, génial, génial.
Ah, voilà, et puis nous parlions des sushis, là,
oui.
Avec Ikejima, nous parlions des sushis, donc nous avons également un maître sushi qui s'appelle Shingo Takahashi, qui lui a travaillé pendant 25 ans auprès d'un chef légendaire pour sublimer tous les poissons et créer une harmonie avec le saké. Donc ces 3 chefs vont venir pour la première fois à Paris et vont cuisiner avec un chef de cuisine française, mais qui est japonais, qui a appris pendant plus de 20 ans auprès des chefs français, qui s'appelle Toshitaka Omiya, qui est étoilé Michelin également, et qui va faire une cuisine, lui, française. Et donc, on va mettre en commun tous ces savoirs de la cuisine japonaise pour constituer un repas exceptionnel, donc un voyage gustatif au pays du soleil levant, mais tout en restant à Paris.
D'accord. Et si je comprends bien, Pascal Le Maillot, c'est assez exceptionnel d'avoir pu demander à ces 3 chefs de prendre sur leur temps de travail, donc de fermer leur maison. Parce que j'imagine que ce n'est pas du genre à laisser un second ou à un commis de cuisine à la préparation, surtout quand on est maître sushi. Donc ça veut dire qu'ils ferment leur maison à Tokyo et ils viennent 4 jours à Paris.
Oui, exactement. Et on a privatisé un restaurant pour cette rencontre exceptionnelle. Oui, ils ferment leur restaurant.
Le nom du restaurant ?
C'est Affinité.
Affinité, voilà,
à Paris.
Ça tombe bien.
Il y a 35 couverts d'exception, donc le midi et le soir, vendredi, samedi, dimanche, du 7 au 9 février.
Et il reste de la place. Il reste de la place, c'est pour le dire, pour ceux qui nous écoutent.
Voilà. Oui, quelques places pour ce dîner, soit ce repas du midi ou ce dîner exceptionnel, qui seront accompagnés, parce que ce ne sont pas que des mets, mais c'est aussi l'alliance parfaite avec des sakés, puisque
bien sûr.
Que le Japon a également de meilleurs à offrir, saké, champagne, vin et une dégustation de caviar.
Le saké, c'est, on peut dire, un vin de riz. Hein. Mais on va y revenir dans l'émission.
Voilà,
d'ailleurs, nous aurons dans quelques minutes Aïsté Misefichute, qui est la créatrice du site Luxit, qui est aussi l'inventeuse de ce voyage extraordinaire, l'inventeur, voilà. Aïsté, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour Aïsté. on était en train déjà de parler de ce voyage culinaire avec Pascal Le Maillot chez ANA. Aïsté, c'est vous qui avez eu l'idée, en fait, de ces escapades gourmandes japonaises en Europe ?
Oui, c'est ça. En fait, ça fait 4 ans que je fais ça. Un jour, j'étais dans le marché à Ibiza et je me demandais qu'est-ce que ça va passer si le grand chef japonais cuisine avec les produits locaux.
Produits de chez nous, enfin de chez nous ou de chez vous, parce que vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas française, vous êtes d'où, vous ?
Non, je suis lituanienne.
Lituanienne, d'accord.
Oui.
Ah oui, effectivement, les Pays-Baltes.
Oui, j'habitais à Paris avant.
Voilà.
Voilà.
Et alors donc, du coup, vous êtes dit, on fait venir des Japonais, on leur donne les produits qu'on a en Europe et on voit ce qui sort.
Voilà, c'est ça, c'était ça l'idée, en fait. Et ça fait 4 ans, comme je disais, je fais cet événement, je fais à Barcelone, à Ibiza. L'année dernière, c'était à Londres.
Ouais.
Et voilà, cette année, c'est à Paris et j'ai hâte.
À Londres, où vous êtes ce matin d'ailleurs, hein, on vous a au téléphone depuis Londres. D'accord.
Non, je suis à Madrid.
Ah, vous êtes à Madrid. Ben, dites donc. Ah, vous baladez pas mal, vous. Hein. Vous êtes comme les chefs japonais. Hein. Vous tournez autour de l'Europe.
Un petit peu, oui.
Allez, je vais remercier Pascal Lemaillot. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Vous passez le témoin à Aïsté. Nous, on va se quitter pour une page de publicité et on revient tout de suite pour détailler un petit peu cette série de repas japonais en France.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Les amis, vous aimez la cuisine japonaise, ou plutôt vous croyez aimer la cuisine japonaise parce que vous commandez sur votre site quelques sushis, souvent faits d'ailleurs par des Chinois. Hein. En France, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de Japonais qui font les sushis en France. C'est un marché qui a explosé et ça ne ressemble pas beaucoup à ce que nous servent les maîtres sushis. Vous vous intéressez vraiment à particularisme de cette cuisine? Eh bien, ça tombe bien, Place du Marché ce matin, on parle de cette cuisine japonaise avec nos invités, Yumiko Ayara, qui est journaliste et qui s'occupe du restaurant Okuda à Paris, et puis notre Patrick Fernandez, alors le poissonnier parisien, mais alors lui il est tombé dans la marmite japonaise, hein, dans le chab-chab quand il était plus jeune, et il a découvert l'ikejime, et dans un instant je vais vous en parler. Mais au téléphone depuis Madrid, parce qu'elle est, c'est une globe trotteuse, Aïsté Misevichute, qu'on présentait juste avant la page de pub. Alors Aïsté, vous êtes donc là, c'est vous qui avez le site, qui avez créé le site Lux Eat, hein, donc mangeons luxe, en quelque sorte, hein, si on devait traduire. Vous êtes lituanienne, vous êtes passionnée de cuisine, et pourtant, lorsqu'on voit vos photos, on se dit, mais où est-ce qu'elle met tout ça? Elle passe son temps à manger. Alors, il faut dire que vous avez été mannequin, et pendant longtemps, je suppose que la prise de poids était compliquée. Vous vengez maintenant, hein, vous laissez aller à votre goût de la cuisine, et pourtant, vous ne prenez pas un gramme.
Oui, on peut dire que j'ai beaucoup de chance, je ne grossis pas, voilà.
Ah voilà, bah ça c'est une chance.
J'ai toujours mangé, même quand j'étais mannequin à New York.
C'est vrai?
Paris.
Ah oui?
Oui, c'est vrai, oui.
Bon, bah écoutez, il faut en profiter, vous avez raison. Et puis en plus, la cuisine japonaise, par définition, comme c'est une cuisine qui est d'abord beaucoup de cuisson à l'eau, beaucoup de produits naturels, beaucoup de légumes, c'est pas forcément une cuisine qui fait grossir, Yumiko, on est d'accord? Non, c'est diététique,
oui.
Hein, la cuisine.
Oui,
c'est important d'ailleurs, la diététique dans la cuisine japonaise.
Oui. Très sain, et parce que nous utilisons beaucoup de goût d'umami, et nous utilisons très peu de matière grasse.
Alors moi, j'adore ce goût d'umami. Oui. C'est très difficile à définir, hein, pour un Français, le goût d'umami.
Oui, une fois que vous goûtez les Français, vous connaissez bien, vous pourrez bien identifier le goût d'umami. Quelque chose de très rond, très long, légèrement sucré, mais de toute façon, très bonne.
Ah voilà, c'est le goût du bon, c'est le goût du bon à la japonaise, merci Yumiko. Alors Aïsté, Pascal Lemaillot nous a donc ouvert l'appétit en parlant de ce voyage culinaire. J'aimerais que vous détailliez un petit peu, puisque je le rappelle, le 7, 8 et 9 février au restaurant Affinité à Paris, qui est un restaurant étoilé, hein, eh bien vous allez accueillir avec une belle organisation trois chefs Tokyoïtes qui viennent spécialement cuisiner ces repas. Alors on a dit, hein, si vous n'étiez pas là dans le premier quart d'heure. On a dit, il y a un maître sushi, il y a un spécialiste de la viande de Wagyu, c'est-à-dire Kobe, Matsuzaka, enfin ces bœufs gras là qu'on adore, et puis un maître du tempura, les beignets japonais. Vous pouvez nous en dire plus sur ces trois cuisiniers?
Oui, en fait, ces trois chefs, ils ferment ce restaurant particulièrement pour venir à Paris.
On l'a dit, oui.
Voilà, ils amènent quatre assistants, ils vont cuisiner avec Toshitaka Omiya, qui est un chef étoilé à Paris.
Oui.
Et ils vont tous créer un menu exceptionnel, voilà, avec ces spécialités. Et les gens qui vont venir chez nous, ils vont avoir la chance de goûter toutes ces spécialités, en fait.
Alors, il faut savoir qu'il reste des places, hein, si vous nous entendez, que vous êtes de passage par Paris au moment de ce repas, ces repas 7, 8, 9 février, c'est vraiment Tokyo qui se déplace à Paris. Yumiko, c'est ça qui est assez novateur dans cette histoire, parce que au fond, quand on est chef tokyoïte ou japonais à Paris, il y a déjà un marché, un état d'esprit qui est un peu différent, cette fusion entre la cuisine française et japonaise.
Oui, c'est vrai. Bon, je n'utilise pas le mot fusion, mais bon, il y a donc quand même ces deux cultures culinaires un peu influencées l'une à l'autre.
Oui, l'une à l'autre,
donc,
oui, bien sûr.
Ça donne vraiment très bons résultats.
Très bon résultat. Ouais. Et là, on a des chefs qui sont détachés de leur terroir, qui viennent de Tokyo, 4 jours. Donc, eux, ils vont vraiment être extrêmement sur une cuisine qui sera leur cuisine japonaise, pas adaptée à un goût européen. Là, c'est vraiment la cuisine, la pure cuisine japonaise qu'on va trouver dans ce dîner.
Oui, je trouve.
Hein, ouais. C'est un peu l'idée, hein, c'est vraiment de
c'est
les...
Ça. Oui, c'est ça, comme vous avez dit, Vincent, dans le programme, qu'il y a plein de restaurants japonais partout au monde, à Paris, partout, mais en fait, c'est pas toujours la vraie cuisine japonaise.
Non, bien
et
sûr.
Au fait, voilà, et au fait, l'idée de mes événements, c'est amener la shokunin. C'est au fait, shokunin au japonais, ça veut dire artisan qu'il dédie toute sa vie pour son travail, au fait.
Ouais.
Et voilà, et c'est... C'est vraiment la même chose que tu peux goûter à Tokyo.
D'accord. Et Aïsté, dans ce dîner, là, ce voyage culinaire, on va goûter les trois. C'est-à-dire qu'on va goûter sushi, tempura et le bœuf wagyu.
Voilà, voilà. Et aussi quelques plats du chef Toshitaka Omiya.
Ah ouais. Ben voilà. C'est un menu en 12 plats, 14 plats, 15 plats.
Enfin, oui, je pense que oui. Je pense que 12 plats peut-être.
Et mais vous viendrez vous ferez tous les repas ?
Oui, je ferai tout pendant tout l'événement.
À vous montrer l'exemple, hein, en quelque sorte.
Je vais montrer l'exemple.
Ok, merci beaucoup. Je vous laisse retourner sur les marchés madrilènes, hein, puisque vous êtes à Madrid aujourd'hui, à Aïsté.
Merci,
vous nous rapportez quelques beaux produits et on se verra, j'espère, un de ces repas. Mais vous les faites tous. Hein, donc, de toute façon, merci Aïsté et bonne journée.
Je serai là.
Merci beaucoup.
Merci Vincent, bonne journée, au revoir.
Yumiko, puisqu'on parlait avec Aïsté du repas japonais, on disait, bon, ben là, forcément, 12, 13, 14, 15 plats.
Oui.
Est-ce que c'est traditionnel dans la gastronomie japonaise que de servir un grand nombre de plats, un grand nombre de préparations dans un repas ou pas?
Bon, dans la culture culinaire japonaise, je crois que c'était... Bon, si on dit un plat simple, un repas simple, familial, c'est, je crois que c'est une soupe et trois petits plats.
D'accord,
et
trois bol petits de plats riz. Quand même.
Oui.
Et le bol de riz.
Oui.
Mais le bol de riz, c'est comme le pain chez nous. Ça sert c'est le sucre lent qui accompagne le repas.
Oui, oui, oui.
Oui, d'accord.
Et la cuisine kaiseki, c'est vraiment la cuisine très gastronomique.
Ah,
et
bah oui.
Donc, et c'est un menu, c'est totalité de plats. Donc, ça compte à peu près, même c'était la cuisine kaiseki, donc, qui est le repas précédé de la cérémonie de thé, et qui a à peu près 8 ou 9 plats.
8 ou 9 plats.
Mais c'est
d'accord,
une petite quantité.
Oui, c'est ça.
Pour calmer l'appétit, pour se boire après un bol de thé.
Ah, voilà. C'est ce qui prépare, en fait, à boire du thé, qui est un peu le
donc,
point d'orgue.
Oui,
le
c'est ça. Il faut préparer l'estomac.
Ah bon, moi, je veux bien préparer l'estomac tous les jours, hein, si c'est ça qu'il s'agit. Alors, dans cette cuisine kaiseki, tout est extrêmement précis. Il y a une vraie nomenclature. On ne fait pas n'importe quoi. Tout est écrit. Il y a en fait un peu une cérémonie, comme dans la cérémonie du thé, c'est-à-dire dans le service, dans l'ordre des plats.
Oui, tout à fait. Donc, je parle premièrement donc le kaiseki, mais c'est surtout il y a deux sortes de kaiseki.
D'accord.
Kaiseki, donc qui est donc le repas précédé de la cérémonie de thé.
D'accord.
Et kaiseki qui est servi au restaurant. Ça, c'est un petit peu différent.
Déjà. Donc, on peut dire qu'il y a le kaiseki maison et le kaiseki quand il est vendu en restaurant. C'est pas tout à fait le même.
Kaiseki, c'est plutôt officiel,
d'accord.
Qui est toujours lié,
d'accord.
Très étroitement, avec la cérémonie de thé.
D'accord.
Ça, il y a beaucoup, beaucoup de règlements.
Oui, donc ça veut dire que si on est reçu chez des gens, ou même dans un cadre un petit peu officiel, il y a un type de kaiseki. Et si on va au restaurant et qu'on demande un menu kaiseki, ça ne sera pas tout à fait pareil.
Non, différent.
D'accord.
Parce que la cuisine kaiseki qui est servie au restaurant, c'est souvent, c'est bien apprécié le repas même, et puis qui est accompagné, bien sûr, de saké.
Ah, le saké, ce vin de riz japonais. On peut dire le vin parce que c'est assez comparable en définitive. Yumiko Ayara, dans votre restaurant chez Okuda, est-ce qu'on fait de la cuisine kaiseki? Est-ce qu'on a un menu kaiseki?
On a que le menu kaiseki.
Donnez-nous un exemple de plat que vous servez chez Okuda.
Oui, par exemple, en général, dans le menu de kaiseki, ça se compose donc 8 ou 10 plats.
D'accord.
Mais il y a deux plats représentant,
d'accord,
représentatif.
Ouais.
Mais surtout, c'est pour montrer le talent des cuisiniers.
Bien sûr,
on dit
bien
c'est sûr. La soupe et le sashimi, donc le poisson cru.
Sashimi, parce que c'est là que, là, on ne peut pas tricher. Hein, sur le choix du poisson,
et
on va y revenir dans un instant avec Patrick Clermont.
Il faut montrer la qualité de poisson, mais il faut montrer la technicité de découpe.
Ah, la découpe, bien sûr, c'est sûr. Hein, Patrick, parce que quand on pense sashimi, qui est donc du poisson cru, hein, alors que le sushi, il y a du riz avec, du riz au vinaigre. Alors là, on ne peut pas tricher. Donc, il y a déjà le choix du poisson, mais on ne pense pas souvent à la découpe. Et c'est tout un art, hein, la découpe au Japon.
C'est vraiment une pratique... Qui dure dans le temps. C'est pas, on ne peut pas s'y mettre en 2 ans, ça prend 10 ans, 15 ans.
Ah là là, oui. Hein,
c'est, et on est même des chefs qui mettent une vie pour avoir une maîtrise totale pour de la découpe. Moi, j'ai essayé avec, par exemple, des chefs chez Okuda, qui ont un peu montré, mais même si je sais bien travailler mon produit et tout, il y a les découpes du produit, c'est vraiment un art. Mmh. C'est vraiment un art et ça ne s'improvise pas. Il faut le travailler.
On va y revenir pour parler de poisson ikejime avec vous. Je suis sûr que ça va passionner ceux qui nous écoutent. Pour en terminer avec le kaiseki, Yumiko, vous disiez la soupe aussi.
Oui.
Pourquoi ? Parce que la soupe chez nous, c'est assez rustique, c'est d'essence paysanne, même si ça a été transformé par les différentes cours et la bourgeoisie ensuite. La soupe au Japon, c'est vraiment là encore quelque chose avec lequel on ne triche pas. Parce que la cuisine japonaise, on pourrait dire le premier caractère, c'est la délicatesse.
Oui.
Des saveurs, oui, notamment. Hein.
Oui, donc la soupe, bon, j'ai dit une soupe, mais en fait, c'était le bouillon.
Le bouillon,
bouillon,
oui, oui, oui.
D'umami. Donc, bouillon est préparé avec le copeau de vonite séché et l'algue laminaire kombu. Donc, c'était le mets. C'est donc.
Le kombu mélange, qui est une algue. Ouais, et la vonite séchée qu'on appelle.
Oui, et donc, katsuobushi.
Le katsuobushi.
Oui.
Qui est, ça se fait comme des copeaux, hein,
oui,
parce que c'est
fait.
Comme du bois,
oui,
c'est
oui,
dur
oui.
comme du bois, la vonite
oui,
séchée.
Oui. Et donc, c'était. Et algue qui donne le goût de glutamate, umami, de glutamate naturel.
Ouais. Ah oui, oui. Oui, pas du monosodium qu'on rajoute, c'est pas de la poudre, hein, c'est ce qu'on trouve dans les éléments.
Et bonite séchée qui donne une autre substance umami qui s'appelle inosinate. Si on mélange les deux, ça, donc l'umami multiplie 7 ou 8 fois.
Ah oui ?
Oui.
7 ou 8 fois ?
Oui.
Ah oui, alors vous voyez comment il faut travailler pour obtenir ce goût d'umami, ce
oui.
goût incroyable qu'on recherche dans la cuisine kaiseki ?
Oui.
C'est-à-dire un goût de confort gustatif,
oui,
un peu, hein, c'est-à-dire qui perdure.
Même dans le lait de maman, on peut trouver le goût de umami.
Ah voilà, mesdames et messieurs qui nous écoutez, voilà, retournez prendre le sein de vos mères si vous voulez retrouver le goût d'umami, ou alors plus simplement, allez goûter la cuisine kaiseki chez Okuda à Paris, puisque c'est Yumiko Ayara qui vous le dit. On se retrouve dans une minute et on va vous parler d'un truc dingue, l'ikejime, à tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, de retour au marché, marché japonais ce matin. Je vous parlais en début d'émission de Toyuzu, qui est le grand marché du poisson de Tokyo, qui a remplacé Tsukiji en 2018. C'est un peu comme Rungis, en fait. Tsukiji était un peu en centre-ville, et à 5 km de là, on a ouvert un grand marché au poisson qui s'appelle Toyuzu, qui a remplacé. Oui, c'est comparable à la migration du ventre de Paris vers Rungis pour le poisson japonais. Mais alors, mes amis, je peux vous dire, il y en a un qui est ici avec moi, qui a eu le même coup de foudre que moi quand il a découvert Tsukiji, c'est Patrick Fernandez, le poissonnier parisien. C'est un peu ça qui vous est arrivé. Hein,
voilà, c'est un peu un renouveau dans mon métier. C'est-à-dire qu'on découvre un autre univers et on se dit, en fait...
Je veux en être.
Je veux en être, c'est ça exactement. Je veux découvrir ce monde-là parce que on pense connaître notre métier et on se rend compte qu'il y a tellement de facettes dans notre métier que... Bah, quand on est passionné, on est obligé d'y aller, quoi.
Oui, puis rappelons-le, ce qui est incroyable, quand on voit une poissonnerie chez nous, une belle poissonnerie, c'est relativement fourni. Hein. On va dire qu'en saison, on trouve les beaux poissons. Là, on est encore en Saint-Jacques, là, donc ça prend pas mal de l'étal. Quand on va dans le marché aux poissons, on s'est dit, mais ils mangent ça, mais ils mangent ça, mais ils mangent même ça, et tout a l'air vivant.
Ouais, c'est le respect du produit, en fait. C'est juste une question d'état d'esprit. Au Japon, il y a vraiment l'esprit de faire le mieux qu'on peut dans le travail, dans les produits, et toujours être performant. Parce que c'est l'honneur un peu. Donc il faut être performant.
Alors, Patrick Fernandez, je vous ai fait venir ici parce que vous êtes vraiment le spécialiste d'une méthode pour ôter la vie des poissons, on va dire, avec douceur. Enfin, en tout cas, préserver leur qualité au-delà, évidemment, de leur mort. Ça s'appelle Ikejime. Comment est-ce qu'on peut définir Ikejime ?
Alors, l'Ikejime, c'est surtout une technique d'abattage. Mmh. Et ça permet de tuer cérébralement tout de suite le poisson, donc avoir une mort express, donc avec très peu de stress pour l'animal. Mmh. Et ça permet aussi d'enlever un maximum de bactéries dans le poisson.
Qui vont décomposer ou qui vont abîmer la chair.
Qui vont apporter quelque chose de nuisible à la chair. Mmh. Et ensuite, la technique suivante, c'est vraiment de casser les fibres nerveuses pour empêcher des toxines de se propager dans les muscles. Mmh. Et donc ça, c'est ce qui accélère la décomposition des chairs.
Mais c'est pas barbare, hein.
En fait, le poisson est déjà mort, en fait. Ouais. On a une mort, la mort est vraiment instantanée. Mmh. C'est vraiment d'avoir le poisson qui soit le moins stressé, abîmé, moins abîmé possible.
Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser un poisson se noyer dans les filets, avec le stress que ça représente, etc. Là, c'est d'ailleurs l'objet d'avoir des viviers, hein, et de pouvoir avoir encore des poissons vivants. Quand on se balade à Toyozu, ce marché Tokuit, c'est ce qu'on voit partout, hein, des grands aquariums, des grands viviers avec des poissons qui sont ramenés vivants. Hein, parce que c'est une obsession, Yumiko, dans l'esprit des Japonais, d'être le plus proche possible du vivant.
Non, je crois que c'était pour notre cuisine, c'est vraiment nécessaire. Mm. Ça veut dire le poisson arrivé vivant à Toyosu, Tokyo, oui. Et ensuite c'est des grossistes, ils tuent à la façon des Ikejime, et ensuite ils vendent tout de suite. Donc tout est parti, le même jour.
Voilà, tout est parti le même jour. Et évidemment, quand on est maître sushi, comme celui qu'on aura dans les dîners dont on parlait tout à l'heure, il faut un poisson qui soit impeccable. On voit que tous ces poissons, moi je me demandais au début ce que c'était, ont une fente derrière la tête, en fait. Oui. Hein, ils sont fendus. Oui. Moi je crois que c'était juste pour les saigner, en quelque sorte. Mais en fait, c'est la trace de l'Ikejime.
Oui, donc c'était... dans la technique de l'Ikejime, il y a donc une partie pour complètement vider le sang.
Bien sûr.
Et puis également de détruire les nerfs.
C'est ça, l'épine dorsale en quelque sorte, enfin, ce qui est dans l'arête. Oui. Donc, mais d'ailleurs, voilà, pour en terminer avec l'Ikejime, moi je vous invite à goûter. Hein, si un restaurateur que vous connaissez vous dit, moi j'achète du poisson Ikejime, vous verrez que ça n'a rien à voir en goût. Hein, les poissonniers français disent, ils sont drôlement emmerdants, les chefs japonais, quand ils viennent acheter leur poisson. Moi, je savais que chez Metro, à Rungis, quand il y a des chefs japonais, ils tremblent, les poissonniers, en général. Hein. On est d'accord, Patrick?
Oui, c'est vrai.
Ils sont beaucoup plus exigeants que les Français, dans leur culture.
Et ils ont notre approche du produit. Là. Pour eux, ce que nous, on estime frais, pour eux, c'est pas forcément... Il faut que le produit soit parfait, juste parfait.
Voilà, parfait. C'est la marque. Hein, c'est la marque, bien entendu.
En plus, parce que nous voulons bien consommer avant tout en sashimi. Ça veut dire poisson cru.
Ah, c'est ça.
Et donc voilà, donc c'était.
Il n'y a pas de sauce pour masquer. On peut pas tricher. Ouais. C'est vraiment le poisson tel qu'il est.
Il faut bien vraiment voir la qualité. Et puis même c'était le cuisinier après l'Ikejime, comment on peut maintenir la température telle température. Et puis combien d'heures?
Ah oui, il va tenir derrière. On peut le conserver. Oui. Oh, et qu'il reste dans
et
cette
donc
qualité.
C'est après 8h, 10h, 11h.
Merci, merci, hein, merci de nous faire rêver au vrai sushi, au vrai sashimi, ce qui n'a rien à voir, je vous le répète, avec ce que vous trouvez maintenant en barquette dans vos supermarchés. Hein, un jour, allez goûter chez un maître sushi. J'ai passé un petit coup de fil, vous m'en voulez pas, en 2 minutes, je voulais un petit point. Je suis au téléphone avec Karine Diop qui s'occupe de la communication d'un événement qui se propage et qui arrive chez nous. Vous n'allez pas le croire, hein, si je vous dis, parce qu'on a vécu le Beaujolais nouveau en avant, c'est le saké nouveau. Bonjour Karine.
Bonjour Vincent.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Le dimanche matin, juste après le marché, on peut commencer le saké, d'autant qu'il y en a de très doux. Alors, quelle est l'idée de ce saké nouveau? C'est de faire une fête du saké, en fait, en France?
Exactement. En fait, au Japon, les sakés sont produits généralement pendant l'hiver.
Ouais.
Et au mois de janvier, en fait, ce sont les premières mises en bouteille qui ont lieu.
Oui.
Nous, on a décidé de faire un événement début février pour faire goûter ces sakés qui sont pas encore pasteurisés, qui sont mis en bouteille tels quels, du coup sont un peu plus vifs que les sakés qu'on connaît habituellement. Et l'idée, c'est de les faire découvrir par le biais de la gastronomie. donc dans les restaurants à Paris et dans toute la France,
ouais.
À travers des accords.
Et ça,
donc,
c'est génial.
Un plat et un verre de saké.
Il y a un site sur lequel on peut aller chercher les adresses des restaurateurs qui font cette opération.
Exactement. Le site, c'est sakenouveau.com.
Sakenouveau, ça me plaît comme idée. Juste un mot, Karine. On peut, parce que vous me parliez de cette fermentation qui a lieu pendant l'hiver, enfin la préparation du saké, le saké nouveau, il y a quand même une analogie avec le monde du vin, hein, on est d'accord. D'ailleurs, c'est un peu un vin de riz avec une diversité, hein, exactement comme des terroirs et puis des crus différents.
Exactement, il y a à peu près autant de saké qu'il y a de personnes et d'entreprises qui les font, parce que tout dépend de la qualité du riz qu'on utilise, du polissage du riz, c'est-à-dire comment on va réussir à récupérer l'amidon, de la qualité de l'eau, de la tonicité qu'on va donner à l'ensemble, etc. Donc il y a toute une large gamme de saké. Et c'est pour ça que dans cette opération Saké Nouveau, on propose de découvrir 3 maisons de saké différentes.
D'accord.
Dont une française même.
Ah oui, un saké élaboré chez nous, ou ça exactement?
Exactement, près de Lyon.
Avec du riz de Camargue?
Avec du riz japonais, par contre.
Du riz japonais, oui, parce qu'il a des qualités, effectivement, en amidon, en gluten, qui ne sont forcément pas les mêmes que chez nous.
C'est ça.
Bon,
c'est
génial.
Ça.
Et alors, c'est quand ce saké nouveau?
Ça aura lieu le 6 février.
Le 10 février.
Le 6.
Pardon, le 6. Ah ben, c'est génial, parce que 6, on fait le saké nouveau, et 7, 8, 9, on va au voyage culinaire.
C'est ça. Hein,
ah ben là, on va vivre une semaine entière à l'heure du Japon. Merci, Karine Diop.
Merci
d'avoir
journée.
Été avec nous. Et n'abusez pas du saké ce matin, pas avant le déjeuner.
Merci,
en tout cas.
Merci
beaucoup. Vous allez continuer à écouter ce qui va suivre, cher Yumiko, cher Patrick. Merci d'être venu nous faire le point un petit peu sur cette cuisine japonaise qu'on méconnaît, il faut bien le dire. En France, on a un peu des œillères, c'est normal, on s'estime tellement les tenants de la gastronomie. Et pourtant, je vous ferai une émission un jour sur la pâtisserie japonaise, qui est très intéressante et où il y a beaucoup d'interactions avec la pâtisserie française. Je vais m'interroger maintenant sur les influences de la France sur le Japon, parce que là on a parlé beaucoup de l'influence japonaise sur la France. Est-ce que vous aimez l'andouillette, Yumiko?
Oui.
Et vous, Patrick?
J'adore.
Vous aimez l'andouillette? Bon, ça, on peut dire que c'est carrément français, On peut pas dire le contraire. Et bien pourtant, vous allez voir, il y a même des Japonais qui s'intéressent à ce produit bien de chez nous. Allez, à tout de suite après la pub.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour sur notre place du marché japonais ce matin. Mes invités m'ont quitté, Patrick Fernandez le poissonnier, Yumiko Eira, qui est cette spécialiste de la cuisine kaiseki, parce qu'on va parler un peu de l'inverse ce matin. On parlait de l'influence japonaise sur la cuisine française. Parlons un petit peu de l'influence française sur les japonais à table. Et il y a une influence qu'on ne voyait pas venir, puisqu'elle est plus charcutière que culinaire, c'est l'entrée de la charcuterie française par l'andouillette. J'étais cette semaine au déjeuner de la 5A, l'association amicale des amateurs d'authentique andouillette, la fameuse AAAAA que l'on trouve dans les brasseries et dans les bons bistrots. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, il y avait un candidat japonais. Et il n'en était pas à son coup d'essai. Pour vous le présenter, j'ai été interroger le président de cette vénérable association.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Jacques-Louis Delpal, vous qui êtes le président en exercice à ce déjeuner, surprise, on démarre la dégustation par une andouillette japonaise venue de Kyoto. Comment s'appelle l'impétrant?
Monsieur Kubo, son prénom Masaki Kubo.
Alors, c'est inédit. Il n'y a pas d'autres étrangers dans cette dégustation de la 5A.
C'est doublement inédit parce que non seulement il est japonais, il est à Kyoto, mais il fabrique lui-même les andouillettes qu'il sert dans son restaurant.
Ce qu'on ne trouve pratiquement plus chez nous en France.
Aucun Français ne le fait. Aucun. Depuis 2-3 ans, et pas un seul ne le fait, sauf à Douai. Mais l'homme était déjà traiteur, donc il a acheté un restaurant, c'est un peu différent. Mais lui, il est venu apprendre en France. Et le diplôme a été renouvelé pour la 4e fois.
On vient de lui renouveler.
Et à chaque fois, il fait le voyage exprès pour venir chercher son diplôme depuis 4 ans. La première fois, c'était aux Grandes Marches à la Bastille, après deux séquences chez le père Claude. Et là, maintenant, au CEPROC.
Alors, la 5A juge les andouillettes sur des critères qui sont assez précis. On va dire qu'il y a une charte écrite et puis il y a l'esprit de la 5A qui est cette collégialité. Grosso modo, on recherche quoi dans le goût d'une andouillette façon troyenne ?
Façon troyenne, c'est beaucoup dire parce que Troyes se dit capitale de l'andouillette. Mais enfin, il n'y a pas que Troyes, il y a autant d'andouillettes dans le Val-de-Loire ou ailleurs. Hein. Mais disons qu'on aime bien les andouillettes bien structurées. Je vais dire de préférence tirer la ficelle, pas obligatoirement, mais tirer la ficelle veut dire un certain soin apporté à la fabrication.
Oui, ça veut dire que c'est plutôt des lanières que des charpies.
Oui, et l'homme qui les étire est obligé de surveiller ce qu'il fait attentivement. Mais il y a des andouillettes simplement embossées, c'est-à-dire rentrées dans le boyau, qui sont très bonnes. Et il y en a qui ont la 5A, plusieurs.
Et après, on les rôtit, on les mange sans rien. Hein. Il faut goûter l'andouillette que l'andouillette.
Simplement poêlée, c'est tout. Hein. Après, on est libre. Tout acheteur est libre chez lui de cuisiner comme il veut, de se faire une sauce moutarde, vin blanc, tout ce qu'il veut. Ça se prépare de mille façons. Mais ici, c'est vraiment puriste. Hein.
Alors, à côté de vous, il y a Laurent Bomberger qui est journaliste, qui lui aussi fait partie de cette association, de la 5A, la AAAA. Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire de l'andouillette de Masaki Kubo par rapport aux andouillettes que vous avez goûtées aujourd'hui ?
Écoutez, ça va faire la quatrième fois qu'on la goûte. À chaque fois, elle s'améliore. Donc, on la goûte une fois tous les deux ans. Il y a des produits français qui pourraient en profiter de la leçon parce que c'est un bon produit. Elle est moins assaisonnée, moins épicée, mais elle a une belle matière. C'est quand même, quand on pense que c'est fait à Kyoto, dans un pays qui est chaud, dans un pays qui est humide, c'est quand même assez incroyable. Et puis, une fois de plus, c'est un produit agréable à manger. Enfin, franchement, ce monsieur Kubo mérite vraiment notre admiration.
Quand vous dites qu'elle est moins assaisonnée, ça veut dire qu'on y retrouve un peu de cette fadeur qui fait aussi l'intérêt et la délicatesse de la cuisine japonaise dans une charcuterie bien française.
Je ne sais pas si on peut parler de fadeur. Il y a le goût d'une vraie bête. En tout cas, le cochon ne semble pas être un cochon industriel. Il y a des vrais bons morceaux, il y a un vrai relief, il y a une vraie texture. Simplement, il y a moins de sel. Bon, toujours l'éternel débat sur le sel. Chacun a son niveau de sel, même en France. Donc voilà, mais moi je vous donne mon avis personnel. Après, certains la trouveront totalement fade ou certains, ça ira très bien pour eux. Donc voilà, quoi, je veux dire, on ne peut pas sur l'assaisonnement, c'est vraiment quelque chose si on veut rajouter du sel ou du poivre. Mais en tout cas, le produit lui-même intrinsèquement est un produit vraiment bien fait dans les règles de l'art.
Jacques-Louis Delpal, président, au moment du vote, la majorité suffit évidemment à décerner ce diplôme, mais pour Masaki Kubo aujourd'hui, c'était unanime ?
Pratiquement oui, c'est une étoile d'or. C'est comme si on discute des étoiles du Michelin, depuis deux ou trois, on dit une étoile d'or pour Masaki. Ouais.
Et ça veut dire que, est-ce qu'il est prophète en son pays ? Est-ce qu'il porte un peu de cette andouillette au Japon ? Est-ce qu'il est suivi ?
Elle est suivie à l'ambassade de France, elle a été servie à plusieurs reprises. Et je crois qu'il est le seul, en tout cas cuisinier en fabriqué, c'est sûr et certain. Il nous les avait envoyés au début d'une façon assez difficile parce qu'il y a la douane à passer et c'est un produit alimentaire. À tous les coups, pour nous, c'était formidable. Et cette fois, on l'a goûté aussi avec deux des meilleurs sakés japonais. Et ça s'est plutôt bien passé pour des Français pourtant peu habitués.
Alors on savait que la pâtisserie française, évidemment, était très implantée au Japon et qu'il y avait des échanges très forts entre les pâtissiers japonais et français et les pâtissiers japonais qui viennent beaucoup se former ici. Est-ce qu'on peut dire que l'andouillette de la 5A, l'andouillette AAAAA, est une sorte de tête de pont de la charcuterie française au Japon ?
Oui, en tout cas, là on a débarqué à Kyoto, un peu à l'ambassade de France à Tokyo, et après ben, on attend. Et on n'a pas encore attaqué le continent.
Sky is the limit alors pour l'andouillette à l'international.
Voilà, en tout cas notre première andouillette vraiment internationale, comme étaient les journalistes qui étaient ici aujourd'hui.
Ah voilà, retour sacrée ambiance donc à cette table de la 5A où l'on déguste nombreuses andouillettes. Bon, il faut aimer ça et moi j'adore ça, ça tombe bien. Et celle, vous l'avez compris, de Masaki Kubo, elle était excellente. Eh bien, c'est peut-être l'avis aussi des journalistes qui étaient présents parce que cet événement, il était couvert par un nombre de journalistes intéressants. Et j'ai été voir Sophie Gallet qui est une journaliste française, mais spécialiste de la cuisine nippone. Alors Sophie Gallet, vous êtes journaliste, spécialiste avec votre revue, on va dire, de l'implication de la gastronomie japonaise en France et en Europe. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe, puisque cette andouillette d'essence troyenne, vraiment un produit extrêmement français, se retrouve sur les tables de Kyoto. Quel sentiment ça vous laisse, ça ?
Eh bien, c'est la première fois, en effet, que j'ai entendu parler d'un chef japonais qui faisait de l'andouillette. Mais par contre, ça ne me surprend absolument pas, puisqu'aujourd'hui, la plupart des grands chefs japonais à Paris font de la cuisine française et aucunement japonaise. La preuve, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, lors de la remise des étoiles Michelin, 9 restaurants japonais, 9 chefs japonais ont eu une première étoile et aucun d'eux ne faisait de la cuisine japonaise.
Pour autant, si on pense à des chefs comme Kei Kobayashi, par exemple, qui a 2 étoiles au guide Michelin, qui est vraiment une tête d'affiche japonaise à Paris, il y a quand même cette fusion entre des produits d'essence japonaise, même s'ils les trouvent sur les marchés français, et une cuisine dont la technique est française.
Alors oui, chez Kei Kobayashi, allez lui poser la question, vous l'avez peut-être déjà fait, et vous verrez qu'il vous dira qu'il fait une cuisine essentiellement française, même si de temps en temps, il utilise des produits japonais. Et c'est comme la plupart des chefs japonais aujourd'hui à Paris. Mais au Japon, en fait, ça ne m'étonne pas non plus que les Japonais goûtent l'andouillette, puisque les Japonais, en fait, ont une palette de saveurs, je dirais presque plus grande que la France. Ils sont habitués, ils sont très curieux, et ils peuvent goûter tout. Je pense qu'on est plus difficile en France qu'ils ne le sont en fait.
En général, le cochon est une viande qui est consommée au Japon, pas énormément, mais moi je pense à une spécialité assez typique, le tonkatsu par exemple, où là ça va être du filet de porc qui va être pané, donc c'est mangé un peu comme du snacking. Il n'y a pas une vraie cuisine du cochon et notamment pas des préparations vraiment charcutières.
Oui, et j'en discutais il y a quelques jours avec des chefs français qui disaient que c'était plus au Japon de la cuisine un peu d'assemblage en fait et moins de la cuisine. Mais je pense que beaucoup de chefs japonais sont complètement passionnés justement par ce type de cuisine traditionnelle française. L'andouillette est justement un exemple type de cette...
Elle a sa place.
Elle a complètement sa place. Et c'est magnifique de rencontrer M. Kubo et de le voir représenter la France quelque part, hein, puisque c'est son rôle à Kyoto.
Alors, au bout de la table, j'ai très vite avisé un homme discret, un homme impressionné par cette association de goûteurs d'andouillette. Il venait chercher son diplôme et il venait de le recevoir. Donc, il était rassuré, il était heureux, venu de sa femme, de ce lointain pays du Japon, au milieu des mangeurs d'andouillettes français, trouver sa place. J'ai été poser quelques questions à ce Nippon adorateur de l'andouillette. Alors je suis ici avec Masaki Kubo, qui est un restaurateur et surtout un restaurateur qui fabrique son andouillette à Kyoto dans son restaurant au Japon. C'est en cela il est exceptionnel parce que c'est le seul fabricant d'andouillette au Japon. Et Eriko Yoshida, qui est avec nous, qui est journaliste ici en France, va nous aider un peu pour la traduction. Alors Masaki, comment avez-vous goûté pour la première fois? Comment avez-vous eu l'idée de faire de l'andouillette?
20 ans前にパリのブラスリーリップで食べました。アンドウィエットのことは知識にはありましたけども食べたのも初めて。
20 ans quand il est venu à Paris,
oui.
Il a visité et il a mangé première fois le andouillette chez Lip.
Chez Lip, la brasserie Lip dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
C'est ça. Et ça, c'était sa première expérience, Eriko.
Oui, c'est ça, exactement.
Demandez-lui si, à l'époque, il savait exactement ce que c'était de l'andouillette. Parce que souvent, quand on goûte l'andouillette, qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas peur, parce qu'on ne sait pas que c'est l'estomac, l'intérieur du cochon. Est-ce que lui le savait à ce moment-là?
Il
savait déjà comment ça se fait.
Comment ça se fabrique? Ah oui, il était déjà au courant, on l'avait déjà briefé là-dessus.
Oui, mais c'était choquant l'odeur la texture.
Ah oui, parce que le parfum de l'andouillette, c'est particulier, hein, c'est extrêmement, je dirais, différent de tout ce qu'on peut goûter dans la charcuterie française. Est-ce qu'il est venu à la dégustation par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a été son mentor? Est-ce que quelqu'un l'a incité à goûter? Ou est-ce que c'est une idée qu'il a eue tout seul? Qui lui a donné l'idée, en fait, l'idée et l'envie?
Il y a 20 ans, donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'internet.
Il a juste mangé.
Oui, comme ça, par hasard, sur le menu.
Sur le menu, et il a essayé de trouver des recettes dans le livre.
Sur Internet aussi?
Non, à l'époque, non. Donc, il avait acheté des livres, des recettes de, traditionnelles, et il a essayé pendant 10 ans, et maintenant, il a découvert...
Il a découvert la technique, en fait.
C'est ça.
Mais alors, ça veut dire qu'il est tombé amoureux quand il a dégusté. Le goût lui a plu tout de suite. Il a aimé tout de suite.
Il
n'y avait pas de andouillette au Japon, donc il voulait apprendre comment ça fabriquer.
Mais quand il a goûté la première fois, il a aimé... Dès qu'il a goûté, tout de suite.
Et pour la première fois, quand il a dégusté, et il n'aimait pas du tout.
Petit à petit, il a aimé l'andouillette.
Oui, c'est ça.
Hein, mais j'espère qu'on vous reverra bientôt, puisqu'il vient de gagner à nouveau le droit d'avoir le diplôme de la 5A. Je suppose que ça le rend très fier de venir recevoir son diplôme ici à Paris. Encore bravo Masaki Kubo, chef et charcutier japonais de Kyoto, qui est un véritable ambassadeur de l'andouillette et donc de notre charcuterie française au pays du soleil levant. Pays du soleil levant, c'est le sujet de cette semaine, mais la semaine prochaine, on revient dans la cuisine française, enfin dans la cuisine. Dans les cuisines, oui, croyez-moi. Depuis un mois, les chefs n'ont pas un poil de sec. Pourquoi ? Parce que demain soir, c'est l'annonce du guide rouge, du guide Michelin. On va savoir qui gagne des étoiles, on va savoir qui en perd. Certains vont festoyer, chanter, rigoler, ceux-là, ils les gagnent. Et d'autres vont se lamenter, pleurer sans doute, et repartir au combat pour les reconquérir. Vous saurez tout la semaine prochaine à 10h, place du marché, dimanche prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, faites le marché et bon appétit sur Sud Radio.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.